Et vous êtes toujours sur Radio Saint-Féréal 94.2, c'est la Maison Brûle épisode 3. Et on a la chance d'avoir des invités aujourd'hui. Donc on a Buffy et Jessie qui nous viennent de très très loin, de Valence. Voilà, et ben merci beaucoup d'être là. Ça nous fait très plaisir que vous soyez venus jusqu'à Cray.
Bonjour et bienvenue.
Oui, merci de nous avoir invités.
Bonjour à vous, bonjour à tout le monde qui nous écoute.
Oui. Ouais.
Et du coup, on va vous poser quelques questions et puis peut-être que spontanément, on aura envie d'aller ailleurs. Mais voilà, on avait envie en tout cas de discuter avec vous sur les enjeux de la lutte antifasciste dans notre coin. Et du coup, bah, si vous voulez bien attaquer par vous présenter un peu, nous... Ce qu'on sait de vous, c'est que vous êtes des militants antifascistes à Valence depuis des années. On vous voit souvent dans différents événements. Et c'est toujours plaisant de vous avoir dans nos rassemblements et autres. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre manière de voir l'antifascisme dans cette présentation
Ouais, ok. Bah, du coup, bon, ce qui est important pour nous déjà de signaler, c'est que notre manière de voir l'antifascisme, elle est très colorée par le fait que, bah, on est anarchiste, que c'est important pour nous, que notre grille de lecture politique, elle est forcément du coup très impactée par notre anarchisme. Et auquel on accole aussi l'adjectif d'intersectionnel. Donc, on se considère comme des anarchistes intersectionnels. Et donc, notre manière de faire de l'antifascisme, si je devais résumer ça rapidement, et après peut-être que Buffy pourra un peu plus développer, l'idée c'est vraiment qu'on essaye d'avoir deux jambes à la fois. D'une part, s'occuper de lutter contre les fascistes, que ce soit les individus, les groupes et les idées. Donc voilà, ça passe par plein de méthodes qu'on va peut-être un petit peu plus approfondir plus tard. Mais dans le même temps, on considère que voilà, ça peut pas suffire comme d'être dans la réaction en fait à la montée du fascisme, au processus de fascisation qu'on peut observer dans la société, et que dans le même temps, on doit aussi en fait construire quelque chose, une contre-société, proposer des choses et construire du pouvoir populaire en fait pour les gens en bas, etc., etc. Voilà, donc je vais peut-être laisser Buffy. Étayer un petit peu ça.
Oui, du coup, bah oui, nous l'antifascisme, on s'est inspiré de plein de mouvements à travers le monde et l'histoire. Et c'est vrai qu'on en a fait le, on a essayé en fait, on a essayé à travers la réaction, on a essayé à travers la chasse aux faf, on a essayé à travers de se baser sur leur agenda eux. Sur ce qu'ils faisaient eux, et c'est pas une mauvaise chose. Ça, on tient à dire quand même qu'il y a beaucoup de camarades, que ce soit les camarades de maintenant ou de avant, qui faisaient un très bon travail là-dessus. Mais c'est vrai que nous, ça nous, en fait, on considérait ça comme incomplet parce qu'on considérait que si on allait toujours se mettre sur leur agenda à eux, on n'allait jamais rien construire de notre côté. Et pour nous, le combat antifasciste, avant tout, c'est un combat aussi qui construit une nouvelle société. Là où le fascisme devient obsolète. Là où leur monde, en fait, n'est pas, ne peut pas être invité parce que même c'est impensable, en fait. Et donc, du coup, pour nous, ça passe aussi par la communauté. Ça, c'est un point ultra important, la communauté. Parce que pour nous, l'antifascisme, c'est avant tout c'est le combat contre le fascisme, ok, mais c'est aussi un combat qui réunit tous les autres combats contre toutes les dominations. Et pour nous, le fascisme, c'est l'apogée de la domination, en fait. En tant qu'anarchiste, forcément, le combat contre l'hiérarchie, contre l'autorité, contre la domination, que ce soit de l'État, que ce soit en fait tout type de domination, on le combat, mais l'antifascisme, c'est le combat contre la domination suprême, en fait. Et du coup, qu'est-ce qui combat ça? Qu'est-ce qui combat, en fait, le fascisme? Pour nous, c'est avant tout, qu'est-ce qui pourrait permettre aux gens, en fait, de se dire « Ah, c'est pas si bête, en fait, être réac, en fait, c'est pas si mal, en fait, c'est pas si grave. Ben, » en fait, c'est la déshumanisation des autres. C'est, en fait, le lien social qui n'existe plus. Et en fin de compte, c'est ça, le fascisme. C'est l'érosion du lien social, c'est l'érosion des services publics, de l'aide, de l'entraide, de la solidarité. Et pour nous, si on veut enlever en fait même le terreau même du fascisme, c'est la communauté, c'est construire quelque chose, construire une communauté d'entraide, communauté solidaire. Et du coup, on le voit à travers ça. On le voit à travers une lutte sérieuse, en fait, hein, des FAF et des mouvements fascistes, mais aussi la construction, c'est-à-dire se lier avec les personnes dans le local, à travers les associations, à travers les quartiers, à travers en fait, les gens dans la vie de tous les jours. En fait, c'est quoi leurs affects? C'est quoi leurs problèmes? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Et c'est à travers aussi être là où l'État n'est pas. Parce qu'on considère que... l'État, déjà, n'aide pas contre la lutte contre le fascisme.
Voire la soutient.
Voilà, tout à fait. Et que du coup, pour nous, l'État symbolise en fait une forme de contrôle. Le contrôle des corps, le contrôle en fait de telle ou telle communauté. Le contrôle des populations. Et pour nous, l'État, en fait, s'il perd son contrôle, alors il va se diriger vers quelque chose de plus extrême, vers le fascisme, etc., etc. Donc, en fait, pour nous, il n'y a aucun intérêt à se lier à l'État. Il y a tout intérêt, en fait, à créer des contre-pouvoirs populaires. Il y a tout intérêt, en fait, à pouvoir nous faire, en fait, arriver à s'autogérer, arriver à mettre en place des choses, parce qu'on est conscient en fait que le pouvoir est dans le peuple, le pouvoir est dans nous, nos savoirs en fait mutuels, le partage, etc. Voilà, donc on aime bien aussi alimenter ça.
Merci. Juste pour préciser, Jessie, tu as utilisé le terme intersectionnel. C'est juste pour préciser que c'est un terme utilisé dans les luttes féministes. Donc j'ai cru comprendre que votre antifascisme, il est féministe aussi. Et du coup, il rejoint bien la ligne de notre émission qu'on rappelle est antifasciste, transféministe et décoloniale. Et on a eu l'occasion d'échanger pas mal avec vous aussi sur les questions internationalistes et anti-impérialistes. Donc, on ne va peut-être pas pouvoir développer à cet endroit-là, mais on sait que quand vous utilisez ce mot-là, c'est aussi, comme tu as dit, Buffy, pour relier les différents combats, relier les différentes luttes qui vont travailler à abattre les dominations. Ça m'intéresserait de savoir comment vous êtes rentré en politique et comment vous êtes arrivé à la lutte antifasciste, un peu perso, parce que, enfin, c'est pas pour raconter vos vies, mais ça fait des parcours individuels qui sont inspirants. Enfin, nous, on a aussi nos propres parcours qui font qu'à un moment, il y a une évidence, et j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus partagée, cette évidence. Mais vous, spécifiquement, vous êtes un peu des anciens, avant même que ce soit à la mode.
Oh là là.
Voilà, du coup, si vous voulez bien...
Ok. Moi, ce qui m'a amenée à la politique, en vrai, j'ai toujours été... J'ai mon père, il est immigré, je viens d'une famille musulmane. Enfin, c'est mon père, il est pas français, il est pas. Enfin, j'ai toujours été proche de ça en fait. J'avais toujours la peur de mon père qui se fasse virer du pays. J'ai toujours eu ce côté-là sur ma place en fait en France, sur ma place en fait entre deux cultures. Donc ça a toujours été quelque chose de présent. Il y a aussi le côté, c'est vrai que j'ai toujours été une enfant qui n'aimait pas la justice et qui remettait tout le temps en question l'autorité. Ça, c'est un truc, ça pétait les couilles de tout le monde autour de moi, des profs, des adultes, tout ce que tu veux. Donc, c'est vrai que c'était à peu près logique que ça suive cette lignée-là. Après, bien sûr, j'ai fait mon coming out. Ça m'a aidé aussi à me rapprocher de la communauté queer. Ça m'a beaucoup aidé à trouver des gens un peu comme moi, de me trouver aussi moi-même, de m'accepter aussi en tant que personne, d'accepter aussi qui je suis, mon côté en fait, justement je suis pas que française, et donc du coup ça m'a aidé aussi à m'accepter moi-même et accepter ma culture. Et puis après en fait, moi du coup au lycée, donc j'étais un peu la gamine pète-couille, la gauchiste pète-couille, que tout le monde en fait, je saoulais tout le monde en fait, donc j'étais assez seule, mais c'était important pour moi de défendre les plus vulnérables, donc c'était un truc. Et après quand je suis arrivée à la fac réellement, où en fait j'ai trouvé des gens comme moi. Et en fait, j'étais toute seule, j'essayais en fait moi-même me battre contre la fac, contre les étudiants racistes, etc. Nanana. Et en fait, je me suis rendu compte que seule, c'est super dur en fait. C'est horrible de combattre seule. Tu te sens tellement. En plus, c'est démoralisant, c'est dur et tout ça. Et j'ai vu en fait, très très drôle, une fois je vais aux toilettes, dans les toilettes dans lesquelles je vais pas, parce que c'est côté droit éco, je vais pas là-bas. Et en fait, j'allais dans leurs toilettes et je voyais un stick des jeunes communistes. Et je dis, c'est quoi ça? Je regarde leur truc Facebook, etc. J'ai dit, ah putain, c'est bien et tout. Ça se rapproche de mes idées. Tout. Non, je vais essayer d'y aller. Et puis après, finalement, ça n'a pas collé avec les jeunes communistes. Bon, voilà. Mais par contre, ça m'a permis de mettre dans le pal vraiment le côté militant et l'action collective. Et ça, c'est vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Et après, j'ai découvert le collectif antifasciste dans une manif. C'est les camarades de ce collectif-là qui ont donné des tracts. Et il s'est dit, c'est exactement ça, je cherchais quand je suis venue, je cherchais un collectif antifasciste, je n'en trouvais pas. J'ai pris contact, je n'ai pas eu de contact, etc. Et là, dès que je les ai vus, je ne les ai pas lâchés. Voilà, c'est ça.
Et ouais, du coup, après, pour moi, bah, ça a été d'abord un souci vis-à-vis du changement climatique. En vrai, moi, c'est ça le premier truc qui m'a fait m'intéresser à la politique. Et puis, quand tu commences à questionner de pourquoi, en fait, on en est là, tu tires les fils, t'arrives au capitalisme, t'arrives à l'État, au patriarcat. En fait, tu vois que tout ça, c'est lié. Du coup, concrètement, j'ai passé pas mal de temps sur Internet, tout ça, à me renseigner. J'étais vachement isolé à ce moment-là, parce que j'étais pas du tout dans un milieu social où les gens étaient à se poser ce genre de questions-là. Et du coup, ouais, c'est, on va dire, Twitter qui m'a radicalisé à l'époque, avant que ce soit racheté par Elon Musk et que ça devienne vraiment un repère de nazis. Mais clairement, c'est comme ça que j'ai mis le pied un peu dans, pour comprendre juste le vocabulaire politique. Et puis, je m'intéressais en plus à côté de ça à la sociologie, à la philo, tout ça. Enfin, voilà, c'était aussi une appétence personnelle, on va dire, pour essayer de comprendre le monde qui m'entoure. Et pendant longtemps, j'avais envie de rejoindre un collectif, mais encore une fois, comme j'étais un peu seul et que je ne suis pas non plus le plus sociable qui soit, j'ai eu pas mal de difficultés au début à trouver un truc, surtout que j'étais à Lyon à l'époque. Et quand je suis revenu sur Valence, par hasard, je suis tombé sur un camarade du collectif qui a reconnu ma casquette qui avait un symbole antifasciste et du coup qui m'a alpagué dans la rue, on a parlé et pareil, j'ai rejoint assez rapidement le collectif et depuis, pareil, je ne les ai pas quittés et j'espère que je vais quand même continuer aussi longtemps que possible, même si... En vrai, non, je préférerais que ça s'arrête, qu'on n'ait plus besoin de faire ça, mais qu'en tout cas, on continue de lutter autant que, autant que ce sera nécessaire. Quoi. Voilà.
Je tiens à rajouter un truc. On connaissait le camarade, mais pas réellement le camarade Jesse, on le connaissait d'une autre manière. C'est qu'il stickait aussi ses propres sticks dans la ville de Valence. Et en vrai, si on doit retenir quelque chose de ces deux histoires, continue à sticker. La vérité, c'est comme ça qu'on gagne des camarades. Ah ouais, c'est comme ça que tu trouves des potes. En vrai, continue à sticker, continue à mettre les contacts, etc. Vous trouverez des camarades.
Et est-ce que vous pourriez un peu nous dire quelque chose sur les enjeux spécifiques de la lutte antifasciste dans nos territoires un peu moins denses que dans les grandes villes, dans une petite ville comme Valence, par exemple?
Ouais, bah oui, carrément. C'est vrai que Valence, c'est une ville moyenne, on va dire. Et ce qu'on observe à Valence, en tout cas, et c'est un peu ce qu'on voit aussi en parlant avec des camarades qui viennent de villes un peu similaires, c'est que c'est des villes qui sont très dépolitisées, où il y a peu de milieux militants, que le réseau associatif n'est pas forcément très développé, ou en tout cas, il est exsangue parce que de moins en moins de moyens, etc. Donc, ça devient de plus en plus difficile, en fait, même juste de lutter dans ces villes-là.
Aussi, il y a beaucoup de... C'est une grosse ville de droite.
Il y a beaucoup de répression policière aussi, avec le fait que
clairement,
les militants sont vite repérés.
Exactement, ouais, carrément. Et puis, c'est vrai qu'en plus, Valence, comme tu le disais, c'est une ville de droite. Et puis, le maire de Valence est quand même d'une droite très radicale quand même. Il ne fait pas partie du RN, etc. Mais bon, il est quand même chez les Républicains. Il a été dans un gouvernement Retailleau. Ouais, et puis, c'est vrai que les différences, de toute manière, s'atténuent de plus en plus. Du coup, c'est vrai que l'enjeu est effectivement de trouver des forces vives, en fait. Ça, c'est un des gros enjeux qu'il peut y avoir dans les villes comme ça. C'est aussi pour ça qu'on bouge quand même pas mal, qu'on fait dans les villes et les villages qui peuvent y avoir autour de Valence, qu'on essaye de créer des liens aussi au-delà de juste nous, nos propres quartiers, etc. Parce que si on devait se limiter à ça, finalement, c'est vrai que ce serait quand même assez compliqué de mettre en place ce qu'on essaye de mettre en place. Et on a quand même, mine de rien, à Valence en tout cas, on est quand même proche de pas mal de grandes villes. Du coup, il y a quand même une activité fasciste qui a été très soutenue pendant des années. Ces derniers temps, c'est un petit peu moins le cas, ou en tout cas, pas de manière très visible. Mais par contre, c'est vrai que, en gros, entre 2018 et 2024 à peu près, ça a été vraiment constant. En fait, il y avait des collectifs qui se montaient, qui étaient hyper actifs, qui étaient très visibles sur les réseaux sociaux.
Moi, quand je suis arrivée à Valence, la première chose que j'ai vue, je suis allée au 25 novembre, donc la journée contre les violences faites aux femmes. Mmh. Et il y avait un collectif de fachos, moi j'arrivais, donc je ne les connaissais pas, qui avait sorti une banderole, qui avait gazé même le rassemblement, et les flics qui ont harcelé les féministes. Ouais. Donc ça m'avait vraiment marqué en arrivant là, quoi.
Ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai que c'était du coup le collectif qui s'appelait à l'époque Valence Patriote, qui était venu avec du coup des personnes de Némésis Valence, qui existaient à l'époque, qui n'existent plus aujourd'hui. Et ouais, c'était une banderole raciste, quoi. C'était bon, je vais peut-être pas citer le truc parce que c'est vraiment dégueulasse. Mais voilà, c'était un truc sur une position pseudo-féministe de l'extrême droite, fémo-nationaliste, quoi. Et bon, voilà, c'est ces derniers temps, en fait, comment dire ? C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu plus calme, mais que la situation à Valence dépend en fait énormément des dynamiques à l'échelle nationale. Mmh. On voit vraiment que quand il se passe des trucs, des faits divers qui sont instrumentalisés par toute la fachosphère, etc., on voit directement l'effet que ça peut avoir sur le terrain à Valence, dans une ville moyenne, etc. Et comme je disais, en plus, voilà, on est quand même proche de Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, etc. Donc, les FAF, ils se pointent, ils font des liens eux aussi avec des gens d'autres villes et ils peuvent se mobiliser parfois du monde. Donc voilà, nous, notre enjeu, c'est déjà de suivre ce qu'ils font et puis évidemment de réagir à chaque fois qu'ils se pointent dans la rue, nous, d'être là aussi, de ne pas leur laisser la place, l'espace. Et bon, il y a tout un tas d'autres pratiques, comme on le disait tout à l'heure, c'est... faire de la veille pour comprendre un peu leur manière de penser, les différentes branches qui peuvent exister de l'extrême droite, parce que ça nous semble important de savoir, de connaître nos ennemis en gros, parce qu'entre un royaliste, un identitaire, un nazi, enfin, c'est pas tous les mêmes. Y a clairement des convergences de plus en plus dans leurs idéologies, notamment autour de la question du grand remplacement qui fédère quand même un peu toute la fachosphère. Mais il y a quand même, parfois ils ont leur marotte en fonction de à quel courant ils appartiennent. Et on sait que sur tel truc, par exemple, si on parle d'avortement, il y aura peut-être plus des royalistes, des cathos intégristes et tout. Et que sur d'autres sujets, ce sera peut-être moins eux qui vont se mobiliser. Et donc, en fonction des profils qu'on sait à qui on va avoir affaire, on ne va pas forcément avoir les mêmes pratiques parce que ce n'est pas forcément les mêmes enjeux de défense, d'autodéfense collective et même parfois de faire en sorte de les empêcher de faire leur truc, quoi.
Mais sur une petite ville, quand même, j'ai l'impression... Enfin, moi, ce que j'ai vu, c'est que le fait que ce soit petit, quand même, les rassemblements, il n'y en a pas tant et que vous êtes presque tout le temps là, que ce soit une question féministe, une question écolo, un mouvement social... Enfin, j'ai l'impression que ça peut avoir un truc de convergence de lutte peut-être plus facile, je sais pas ce que...
Oui, totalement. Mais c'est pour ça que nous, c'est important, en fait, le fait d'être présente au mieux qu'on puisse. Ça permet, en fait, aussi de dire qu'il n'y a pas une lutte au-dessus d'une autre et qu'elles ont toutes leur importance. Et que en fait notre présence ça peut être aussi à travers des pas forcément en tant que collectif antifasciste mais surtout en tant que camarades et en fait nous on a aussi cette façon là de voir au sein du collectif de voir les choses c'est nous qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire ? La logistique, ok. Quels sont les trucs chiants que vous avez à faire ? Pas de souci, on le fait. Et en fait, qu'est-ce qui peut permettre de mettre votre lutte, les camarades qui sont au front sur, par exemple, la lutte féministe, sur la lutte décoloniale, etc., pour que vous meniez à bien votre événement, ce que vous avez mis en place, etc. Qu'est-ce que tout le travail chiant, qu'est-ce que vous avez à nous donner. Mmh. Et en fait, nous, c'est aussi comme ça qu'on veut construire cette communauté-là, c'est aussi montrer l'exemple. Là, si je peux revenir sur sur Valence, c'est aussi le côté ville de passage. En vrai, ça, c'est un truc aussi qui nous a été, qui a été particulièrement dur. C'est-à-dire que c'est une ville où soit tu as vécu à Valence en tant que jusqu'au lycée, etc. Et qu'après, pour tes études supérieures, tu vas ailleurs. Donc du coup, il y a ce profil-là. Il y a aussi des personnes qui sont là pour leurs études supérieures et qui après vont dans une autre ville ailleurs pour soit continuer d'autres études, soit pour juste trouver un travail ou même changer de ville. Donc on a aussi beaucoup de départs, etc. Donc c'est des personnes qui restent pas longtemps au niveau des profils de gens qui sont dans les militants autour de nous, militants, militantes. Mais on a aussi le côté de... en fait, il n'y a pas de culture militante. Il n'y a pas de... on n'a pas un gros truc historique, Valence. Voilà, ce n'est pas une ville ouvrière, ce n'est pas une ville... Et en fait, c'est vrai que c'est difficile de faire un peu sa place en tant que... Soit pas forcément en tant que collectif antifasciste, mais même juste en tant que gauchiste, en fait. Mmh. C'est compliqué. Les gens, ils ne sont pas forcément... Ça ne les intéresse pas. Beaucoup d'étudiants et étudiantes, ça ne les intéresse pas. On a des jeunes travailleurs et travailleuses. En fait, on a tout type de profil, bien sûr, mais c'est des personnes qui ne vont pas rester.
Lycéens, ils ont l'air chauds, mais sûrement ils vont aller faire leurs études d'ailleurs.
Mmh. Ah oui, on a beaucoup de lycéens, lycéennes, ouais. Mais qui sont intéressés, et puis après qui partent. Et en vrai, c'est compréhensible. Mais du coup, c'est que c'est compliqué à maintenir quelque chose sur le long terme. Voilà, il n'y a pas tout le monde qui veut rester valentinois, valentinoise à vie. Bien sûr, c'est quoi cette ville, quoi, hein. C'est vrai, ville de droite, etc. Quand t'es
Valence,
de gauche,
violence.
C'est même ce que disent les camarades en migration aussi, les assos qu'on salue à GVS. Qui disent, y a aussi ce truc-là de personnes qui vont s'arrêter dans un parcours de migration et qui vont aller ailleurs. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'opportunités à Valence.
Oui, exact. Et vraiment, dans nos communautés, moi, je comprends l'intérêt d'aller à Cré. Enfin, pour quand tu es gauchiste, je comprends. Mais quand tu es à
Valence. Il n'y a pas beaucoup de boulot ni de logement accessible.
Mais du coup, je comprends l'intérêt d'être avec des personnes aussi qui nous ressemblent, avec des gens avec qui on se sent à l'aise, qu'on se sent safe, etc. Et c'est vrai que Valence, c'est compliqué de se sentir à l'aise et safe quand on est de gauche, en tout cas, je trouve.
Et on voulait vous poser une question sur les enjeux du fascisme aujourd'hui, parce que bon, il reprend ses classiques, il y a des choses traditionnelles dans le fascisme qui vient là, mais il y a aussi un nouveau visage du fascisme qu'on appelle le néo-fascisme aussi, et on aimerait vous entendre sur les nouveaux enjeux que vous identifiez dans la lutte contre ce fascisme-là.
Tu réponds en premier.
Nous on voit pas forcément une si grosse différence en fait entre les deux. Alors après évidemment à chaque époque il y a ses spécificités et tout. Et clairement voilà, on n'est pas dans les, pour l'instant en tout cas, dans les milices comme ça pouvait être le cas voilà dans les années 30 et tout. Pour autant c'est quand même les mêmes processus, notamment en termes de comment le champ politique en fait il se structure. Avec un bloc bourgeois qui va clairement faire le marchepied pour l'extrême droite de manière générale, qui elle en fait a quasiment rien à faire. En tout cas, je parle de l'extrême droite parlementaire, n'a rien à faire. Enfin, il parle pas et il monte dans les sondages, il monte dans les élections à chaque fois. Et en fait, c'est ce processus de normalisation sur lequel nous on n'a pas forcément de prise directement parce que en tant que militants et militantes de terrain, on peut pas faire grand chose contre ça. Par contre c'est vrai que là où on a l'impression nous qu'il y a quand même un truc qu'on peut mettre en place aujourd'hui dans cette période, c'est au moins que dans notre camp que ça redevienne une évidence que l'antifascisme c'est une nécessité et qu'on arrête de c'est aussi parce qu'on a vécu des trucs avec des gens de gauche qui clairement en fait nous ont qui nous prennent pas au sérieux, qui nous disent vous êtes toujours dans l'abus, vous exagérez le danger, et puis même juste des gens qui nous jettent sous le bus clairement qui sont prêts vraiment à nous dégager pour avoir l'air plus tranquille aux yeux de la police, de l'État de manière générale. Donc bon, c'est quand même un enjeu, je trouve, que à gauche non seulement on remette la nécessité de l'antifascisme sur le devant de la scène et que par ailleurs on soit un peu moins tolérant avec tous les trucs, je pense en fait à les Roussel, les Ruffin, etc. qui vraiment moi c'est un truc, ça m'énerve. Ils font vraiment partie du processus de fascisation en fait parce qu'ils participent à la normalisation des discours d'extrême droite, même si je dis pas que c'est des fachos eux-mêmes. Mais par contre, ils participent au processus de fascisation parce que le fascisme, c'est pas juste des fascistes, c'est aussi la société qui fonctionne d'une certaine manière et qui amène à un modèle politique dans lequel, en fait, comme le disait Buffy tout à l'heure, au final, c'est la domination sous toutes ses formes qui progresse et qui écrase les individus, quoi.
Ouais, et il y a vraiment une responsabilité de la gauche, et ça, je voulais insister là-dessus, parce que vraiment, on parle de la gauche parlementaire, hein, qui vraiment ouvre les portes au fascisme, mais aussi de la gauche SOSDEM, de la gauche molle, qu'il y a dans les associations, dans les collectifs, etc. Et je sais que nous, on en a vraiment pâti de cette gauche-là, parce que moi, je suis aussi cette militante qui, jeune féministe, en fait, croit le discours de cette gauche-là, que l'antifascisme, oh, ça va, c'est ringard, oh bah oui, c'est deux, trois abrutis qui se tapent dessus, on a autre chose à faire, c'est démascu, etc. Et en fait, je me suis moi-même, je le dis, laissé avoir et j'ai mis au second plan l'antifascisme. Et aujourd'hui, je me rends compte de mon erreur et de comment, en fait, ça m'a complètement polluée. Mais je ne suis pas la seule. Nos luttes sont polluées par cette gauche-là qui ne cesse de nous dire que l'antifascisme, c'est violent et qui, finalement, réitère ce truc de dire l'antifascisme, c'est des terroristes, etc. Et donc, ouais, j'aimerais bien dire aussi que ça aussi, c'est nos ennemis et comment, justement... Enfin, ma question, c'est comment militer avec cette gauche-là, comment déconstruire...
Si je peux reprendre ta question de tout à l'heure, justement, sur le néofascisme. Et j'entends, c'est important, des fois, de mettre des termes très précis selon en fait ce qu'on décrit. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui pour nous est, et ça fait partie du problème, hein, c'est-à-dire que nous, pour nous combattre le fascisme, c'est savoir l'identifier, c'est le connaître. Et en fait, ça c'est un truc que la plupart des gens, que ce soit à la gauche ou même les personnes pas forcément politisées ni rien, n'arrivent pas à reconnaître le fascisme. Ils n'arrivent pas à reconnaître le racisme, ils n'arrivent pas à reconnaître le sexisme, etc., etc. Et en fait, du coup, ils se disent fasciste, c'est quelqu'un qui se dit ouvertement fasciste. Alors déjà, à partir de là, t'as perdu la guerre. En fait, t'as perdu la guerre si tu te dis que c'est quelqu'un qui va s'identifier ouvertement. C'est pas un coup d'État, c'est pas un truc de... direct d'un coup, il y aura un État fasciste, comme ça, d'un coup. Non, c'est quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, et camarade aussi en a parlé, c'est l'érosion, en fait. Et l'érosion, c'est à travers aussi l'inaction. Des personnes, en fait, les personnes qui ne font rien, les personnes qui disent c'est pas si grave, les personnes qui minimisent, les personnes qui sont ou qui sont attentistes, etc., etc. Et c'est vraiment ça, c'est une part énorme, en fait, bah, justement, qui rend difficile notre combat, c'est les gens qui ne font rien. Et c'est l'inaction, on va dire, comme on dit, voilà.
Et qui croient qu'ils sont neutres en plus.
Oui, ouais, et une supériorité morale parce qu'ils sont neutres. Et en fait, c'est comme j'aime beaucoup cette phrase-là de le mal triomphe quand les gens bien décident de ne rien faire, en fait. Et c'est exactement ça. Si en vrai les gens se considèrent réellement aussi supérieurement moraux, alors on ne peut pas faire de concessions avec le fascisme. Alors, on ne peut pas débattre avec les fascistes, avec le fascisme. Il n'y a pas de débat. Et en fait, inviter même le débat, et c'est comme, je pense, vous voulez aussi dire le camarade en parlant de Roussel, Ruffin, etc. C'est inviter certains sujets, etc. Et normaliser le fait que dire, OK, ouais, c'est normal, on peut débattre de tout. Non, mais en fait, on ne peut pas débattre de tout, en fait. Et en fait, à partir du moment où tu dis on peut débattre de tout, tu as perdu un front. Exact. Et en fait, le fasciste, c'est à chaque fois nous qui perdons des fronts. Il faut qu'on ait des garde-fous. Il faut que même dans nos orgas, dans notre façon de voir les choses, il y ait des garde-fous qui permettent en fait que c'est un front qui soit constamment assez solide, en fait, pour pas que pour pas que le fascisme s'y insère. Et je sais que ça paraît un peu catastrophique de dire oui, le fascisme a s'y inséré, mais en fait, c'est ça, c'est même nous, en fait. En fait, de se laisser porter par des sujets sur dominants, en fait, et dominateurs, à travers, que ça peut être des sujets sur les personnes migrantes, ça peut être sur les sujets sur la transidentité, etc., etc. Une fois qu'en fait, on laisse inviter ce genre de sujet, on est en train de perdre. Donc, du coup, savoir identifier, c'est pas juste ah oui, un faf est un faf parce qu'il se dit faf. Non. Quelqu'un qui est fascisant, c'est pas juste un gars qui se dit ouais, je suis raciste. Non, la plupart du temps, ils vont jamais se dire raciste. La plupart du temps, ils vont jamais se dire faf. C'est très, très rare. On a peut-être des Julien Rochdy qui aiment trop dire qu'ils sont d'extrême droite et tout parce qu'ils se créent, il y a un persona autour de ça. Mais la plupart du temps, d'entre eux, ils n'assument pas, en fait. Et même, ça fait partie de leur technique.
Ouais, du coup, je voulais juste revenir sur ta question, du coup, de comment on peut quand même. Enfin, qu'est-ce qu'on fait avec la gauche bourgeoise, en gros ? Je pense que c'est quand même assez contextuel, ça dépend pas mal de qu'est-ce qu'on cherche à faire. Nous, c'est vrai que de manière générale, on essaye d'avoir des relations quand même bonnes avec la plupart des personnes qui peuvent se dire de gauche dans notre coin, parce qu'encore une fois, il n'y a pas tant de monde que ça. Pour autant, on ne se prive pas de soit de critiquer certaines modalités d'action, soit tout simplement nous d'imposer nos modes d'action, en fait, parce qu'on considère que c'est important d'être présent et présente dans les différents lieux qui peuvent être mis en place. Par contre, on le fait à notre manière, avec nos modes d'organisation, nos pratiques politiques. Et du coup, bon, parfois, il y a des trucs où on se dit, là, c'est juste pas possible, sur tel événement, on veut pas du tout bosser avec tel orga, donc soit on participe pas, soit on fait juste chacun de son côté. Par contre, il y a des fois où, ouais, faut quand même, je pense, essayer de faire passer des choses, parce que on peut pas non plus juste complètement se couper de la gauche bourgeoise, encore que. Il y a des fois, vraiment, il nous donne envie, franchement.
Oui.
Mais ne serait-ce qu'en termes de nombre, parce qu'on considère quand même que l'antifascisme, ça doit être un mouvement de masse. Ça ne peut pas juste être une poignée d'individus qui montent des petits groupes
et qui font le sale boulot pendant que la gauche fait des choses propres.
Ouais. C'est ça, exactement. Et en fait, c'est vrai qu'il y a aussi ce truc-là de... En fait, il faut qu'on assume du coup la radicalité, la confrontation, etc. Et que, en fait, on a besoin qu'au moins... ceux qui veulent pas se mouiller ou se salir les mains, au moins ils nous mettent pas des bâtons dans les roues, en fait, qu'il y ait au moins l'idée que on doit être solidaire, en fait, parce qu'on est dans le même camp, plus ou moins.
Si on est présent, en fait, on peut être leur boussole, leur vraie boussole à gauche, parce que quand on a vu que la gauche mélenchoniste, elle a été nommée extrême gauche. C'était pas dramatique, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire, c'est que la vraie extrême gauche, elle est invisibilisée, elle est repoussée dans les méandres de l'histoire.
Complètement.
Et le fait que ça se décale comme ça, et donc nous, je pense qu'on a, enfin, les personnes qu'on se dit radicales et qu'on trouve que c'est vraiment pas suffisant, il faut qu'on leur montre le nord, quoi. Enfin,
surtout que...
Sud ou je sais pas.
Ouais. Surtout que ça justifie la criminalisation de l'antifascisme. Ouais. En fait, de déplacer en fait, la fenêtre d'Overton et considérer que LFI, c'est l'extrême gauche, ça nécessite que ceux qui sont plus radicaux, entre guillemets, plus radicaux que LFI, ça veut dire que c'est des terroristes, ça veut dire que c'est des criminels, ça veut dire que nanana. Et en fait, pareil, là, on perd la guerre. En fait, si on considère qu'entre nous, on va commencer à faire le tri de qui est légitime ou pas légitime en extrême gauche, dans le sens où eux, c'est des terroristes, on ne s'associe pas avec eux. J'ai envie de dire, je veux rappeler le poème, quand même, le fameux poème qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas communiste. Et quand ils sont venus me chercher, moi, il n'y avait plus personne pour me défendre. Et c'est exactement ça. Moi, je l'ai raccourci, bien sûr. Hein. Mais c'est exactement ça, en fait. À un moment donné, à force que on dissout des organisations antifascistes, etc., mais que ce soit en France ou que ce soit aux États-Unis, là, en ce moment, ils sont en train de mettre ça aussi en place. On utilise des lois qui étaient utilisées contre le crime organisé. Et on l'utilise pour les organisations antifascistes. Là, je parle aux États-Unis. Ça va juste... décaler aussi, qui c'est qui va combattre le fascisme, en fait. Donc, si on enlève les antifascistes, soit ils sont tous en prison, soit ils sont tous dissous, soit nanana, ok, d'accord, il reste qui ? La gauche parlementaire ? La gauche parlementaire, bon courage pour faire face au fascisme quand le Parlement n'existe pas. Et puis on a besoin de personnes qui ont des méthodes différentes. On peut le faire à travers l'Assemblée nationale, si vous voulez, mais en fait, il y a aussi des trucs dans la rue, il y a des trucs dans l'associatif, il y a des trucs, en fait, des choses qui sont... Tous les fronts sont importants face au fascisme parce qu'il peut s'inviter n'importe où.
Oui, et puis ça éteint juste l'idée de révolution, l'idée de transformation. Et c'est alors que dans tous les pays du monde, on sait... que l'idée de révolution, elle est un espoir. Et là, le fait d'éteindre l'espoir de la révolution et dire « il n'y a pas le choix, l'économie de marché, la sagesse », en fait, c'est ultra déprimant. Et du coup, nous, on a envie de laisser aussi un peu d'espoir, quoi.
Et c'est pour ça que c'est aussi difficile pour nous de faire faire ce compromis-là, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, pour nous, c'est important la préfiguration. La préfiguration, nous, ce qu'on appelle ça préfiguration, c'est vraiment le côté de mettre en place dès maintenant, dans nos organisations, dans nos comportements individuels et collectifs, ce qu'on voudrait voir, en fait, plus tard, notre société idéale, etc. Et c'est au sein de notre orga, on considère que fonctionner d'une certaine manière, c'est aussi c'est en accord avec nos principes, on cherche à être cohérente, et c'est pas juste, oui, mais parce que là, on est face aux faves, donc on laisse passer ça, on laisse passer ça, on laisse passer ça. Sauf que non, en fait, on se doit d'être cohérente. Et en fait, si on est véritablement révolutionnaire, je ne parle pas pour les camarades LFistes qui ne sont peut-être pas tous révolutionnaires, même pour certains, ils ont peut-être abandonné l'idée. Mais en tout cas, si réellement on est révolutionnaire et si face au fascisme, on veut être réellement... efficace, on se doit d'être cohérent, et ça passe par la préfiguration, ça passe par réellement être incarné, en fait, ce qu'on voudrait que ce soit plus tard. Et donc, du coup, on peut pas être mou, en fait. On peut pas être indulgent, on peut pas être tolérant face à des gens comme ça, en fait, des gens qui cherchent à dominer. En fait, c'est à partir de là où, en fait, on met la limite. Tu cherches à dominer, à partir de là, il y a plus de discussion. Tu cherches à faire du mal aux autres, aux personnes les plus vulnérables, il y a plus de discussion.
Ouais, on avait envie de vous poser un peu une dernière question. C'est, moi, je pense un peu aux personnes qui se sentent un peu isolées ou parce qu'ils n'ont pas forcément les réseaux ou les codes militants et qui auraient envie de rejoindre la lutte antifasciste, enfin, qui ont vraiment le cœur à ça, mais qui, parce qu'on peut reconnaître que ce n'est pas si simple. Parce que, en plus, comme il y a toute cette propagande que c'est des endroits secrets, violents, machin. Et du coup, je voulais vous demander un peu des idées, en fait, même des idées dans la vie quotidienne. Et pour les gens qui ont envie de se bouger pour affronter les idées fascistes, le fascisme en général, si vous avez envie de...
Ouais, carrément. Ben, je pense que déjà, un des trucs, le premier truc à dire, c'est de regarder autour de chez vous s'il y a déjà des collectifs qui se revendiquent de l'antifascisme, que ce soit d'ailleurs des collectifs antifascistes ou pas. Hein. Et ça peut être dans des assos, dans des syndicats, dans tout un tas de types d'organisations qui se revendiquent antifascistes. Et de rejoindre en fait les gens qui font déjà des trucs. Je pense que c'est le meilleur moyen de commencer, parce que quand on est seul et qu'on n'a pas forcément trop les codes du militantisme, ça peut être un peu délicat. Et puis bon, si vraiment on veut faire des trucs dans l'antifascisme, il faut quand même savoir que ça vient avec des risques. Ça représente quand même un certain danger, quoi. Voilà. Après, en fait, je pense qu'il y a un truc qui est important à dire, c'est que tout le monde peut trouver sa place dans le mouvement antifasciste, qu'il n'y a vraiment pas de profil type, en tout cas, nous, c'est notre vision des choses. On ne considère vraiment pas qu'il y a besoin forcément d'être un guerrier, etc. C'est un peu l'image que se font dans l'imaginaire collectif des antifascistes, voilà, qui savent se battre, qui aiment se taper avec les faf et tout. Voilà.
Mais s'il faut au moins être champion de jiu-jitsu,
on demande au moins un troisième dan, bien sûr. Mais voilà, à part ça, sinon, tu m'avais invité.
Mais ouais, voilà, en fait, c'est vraiment cette idée que, de toute manière, il y a tellement de choses à faire. Ça peut être écrire des textes. Ça peut être de participer à la communication de ton organisation, ça peut être faire de la logistique, parce qu'encore une fois, il y a tout un travail d'organisation invisible, de soins, juste logistique en fait, de manière générale, sur organiser des événements, etc. Tout ça, c'est des choses qui participent en fait au mouvement antifasciste et que, en fonction de de ce qui vous plaît, de ce que vous aimez faire, de vos compétences, etc., vous pouvez en fait trouver une place. C'est de toute manière trouver des gens avec qui vous pouvez faire des trucs et décider ensemble de ce que vous avez envie de faire. Je pense que c'est quand même un peu la recette, quoi. C'est s'auto-gérer, pas attendre forcément qu'il y ait des ordres qui viennent d'en haut, de qui que ce soit. Et faites des trucs. Il y a vraiment plein de choses à faire. Inspirez-vous peut-être de ce qui se fait autour de vous. Et si vraiment vous avez des questions, on mettra peut-être un moyen de nous contacter, on verra. Mais en tout cas, il y a vraiment plein de choses à faire, n'hésitez pas. Ça peut faire peur. Parfois, je sais que nous, c'est un truc auquel on a été pas mal confrontés, c'est-à-dire des personnes qui essayent de nous rejoindre et qui sont assez impressionnées au moment de telle ou telle action. Et on le comprend complètement, c'est normal, ça fait peur. En vrai, nous aussi on a peur, mais par contre il y a des choses qui sont pas forcément flippantes que vous pouvez faire et qui apporteront quand même quelque chose.
En fait, vraiment, c'est dire aussi même que la lutte antifascisme ne serait rien sans en fait toutes les personnes qui font le travail invisible. Et en fait, c'est pas juste invisible, c'est invisibilisé. Et en fait, nous, on cherche à vraiment montrer que en fait chaque chose qui est faite, du moment aussi que c'est de manière régulière, hein, c'est important en fait le côté régulier, etc. Mais n'importe quoi, tu trouves soit des idées, des idées de projets, tel fait divers, ok, il y a ça, le côté information, le côté maintenir les réseaux sociaux, ok, trésorerie, nanani, nanana, il y a plein de rôles qui sont importants dans l'antifascisme, mais sans ça, l'organisation n'existe pas en fait. Et ça, c'est très important que, en fait, quand on dit préfiguration, c'est pas seulement préfiguration un antifascisme, on est en pleine guerre, on a besoin de guerriers, etc. On s'en fout de ça. Là, on est en train de dire, on essaie de construire une société où le fascisme ne peut pas exister. Et en fait, une société où le fascisme ne peut pas exister, c'est aussi une société où tout le monde a sa place, où toutes les compétences sont valorisées, tous les types de personnes sont valorisées. Et ça entend tout le monde, en fait, peut être antifasciste. C'est pas juste un certain profil de personne. Le plus important, c'est que tu sois motivé, déterminé et que tu fasses pas de concessions face au fascisme. C'est la seule chose qu'on demande. Bien sûr, c'est encore mieux s'il y a de la régularité, mais bien sûr, tout le monde fait du mieux qu'elle peut, en fait. Et il y a le côté aussi, bien sûr, si je peux rajouter, ce qui est antifasciste, c'est pas comme c'est pas seulement chasseur de skins en fait. L'antifascisme, nous on le perçoit à travers plein de choses, à travers, c'est pour ça qu'on s'est beaucoup inspiré de camarades à travers le monde et l'histoire qui ne sont pas ouvertement des collectifs antifascistes mais qu'on considère qu'ils sont intrinsèquement antifascistes. Par exemple, on parle des Black Panthers aux États-Unis qui pour nous sont des exemples en fait sur comme sur les contre-pouvoirs populaires qu'ils ont construits sur voilà, que ce soit à travers les soins, à travers les petits déjeuners distribués aux enfants noirs des quartiers pauvres, des grandes villes. Ça peut être à travers les, l'éducation populaire, etc., etc. Ça peut être aussi à travers voilà, des camarades du Rojava, des camarades du Chiapas. En fait, on prend en fait en compte le fait qu'on veut faire société. Et pour faire société, une société antifasciste, il faut de tout le monde. Il faut des gens dans le soin, faut des gens dans la création. Faut des, de toute manière, le fascisme, il essaie de, d'enlever le soin et la création. Donc on a besoin de gens comme ça, en fait. Le plus important, c'est de se dire on n'est pas inutile. Personne n'est inutile face au fascisme. Du moment que tu veux combattre le fascisme, à partir de là, tu as le bon truc, en fait.
Ouais, c'est ce qu'on se disait aussi entre nous, c'est que en fait, à tout endroit, on peut un peu agir dans son boulot, dans son assaut, même si elle a rien à voir.
C'est ça.
Dans son groupe de musique, dans...
tout à fait.
Et enfin, en tout cas, de, d'être acteur de et de pas être juste neutre et c'est rester ça. Dans l'ignorance
et de plus jamais se taire, quoi.
Oui, tout à fait. Tu peux être antifasciste à ton travail. Tu peux, si tu as la possibilité et tout ça. Hein, bien sûr, c'est un luxe hein, des fois hein, de pouvoir montrer ses opinions politiques au travail. Mais tu peux être antifasciste dans ton, dans ton, dans tes groupes, en fait, que ce soit l'association, que ce soit. En fait, dans tout type où il y a des gens, il y a des interactions avec les autres, il est important de maintenir le front. Et c'est-à-dire de ne pas laisser faire, en fait. Parce que les racistes, ils se permettent de maintenir, en fait, de eux maintenir leur front. Hein. Voilà, ils sont à l'aise, ils sont à l'aise. Ils parlent de leurs idées normales et personne ne leur dit rien.
Il faut leur, vraiment leur remettre la honte, quoi.
La honte, elle doit... Et bien sûr, ça entend... Ouais. Là, les gens, ils entendent, oui, mais moi, du coup, je n'ai pas assez de confiance en moi. Mais ça peut être de plein de manières différentes. Ça peut être la récolte d'informations. Ça peut être, en fait, juste, bah, voilà, j'ai envie de vulgariser tel ou tel sujet pour qu'il soit plus accessible. Ça peut être la création de zines, voilà, de pamphlets. Ça peut être plein de choses. Ça peut être la création d'autocollants, montrer une présence antifasciste dans les idées. Hein, bien sûr, pas forcément en collectif antifasciste, mais ça peut être juste les idées. Voilà. Dans ma ville, je veux absolument que les gens ils voient ça. Quand ils rentrent, ils sortent dans la rue, ils voient ça. Ça montre en fait, voilà, les gens ils sont en sécurité. On ne laissera pas en fait, les fafres avoir la rue, en fait.
Ben, merci beaucoup.
Merci beaucoup, c'était passionnant.
Ouais.
Merci
à vous. On aimerait bien juste, vous avez choisi une musique, si vous voulez bien la présenter vite fait.
Bien sûr.
Puis, ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci.
Et puis, vous serez réinvité dans la maison.
Avec plaisir.
Merci de nous avoir invité.
Et du coup, on est parti sur On the Day de Nazi Died. Et en fait, moi, c'est une musique qui m'est venue en tête quand il y a eu tout le truc autour de Quentin Derenck, la minute de silence à l'Assemblée nationale. Donc, juste un petit mot pour Quentin, RIP Bozo. Et voilà, je vous laisse écouter la suite.
Oh putain. Yeah!